Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous ceux qui sont chez eux derrière leur écran. Bonjour en haut à la galerie. Ce matin, j'ai la joie de commencer la nouvelle série de prédications sur quel est le sens de la vie. Et ce matin, le sous-titre, c'est quel est le sens de ma vie? Question large, question facile à répondre puisque je vais y répondre en 25 minutes. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Ça serait faux de ma part de vous promettre ça. Quel est le sens de la vie? J'aimerais commencer par une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui nous dit: La vie ne mérite d'être vécue que si elle a un sens. J'aime cette citation et j'aime cette idée que la vie a un sens. La vie a un sens précis. Je pars de ce présupposé que la vie fait sens, elle va quelque part. Et qu'aujourd'hui, on est à la recherche de ce sens. En plus, en 2021, avec toutes les aides technologiques, on peut se retrouver facilement dans ce genre de situation. Je cherche un sens à ma vie. C'est sa femme qui dit, bah, essaye Google. Aujourd'hui, on peut arriver à ça facilement, à chercher sur Google un sens à sa vie, un sens à son existence. Et on voit sur Internet, bah, j'ai pu voir un article sur foi en question qui était très intéressant, qui montre que tous les grands systèmes philosophiques et religieux de l'humanité ont essayé de répondre à cette question. Parce que cette question de quel est le sens à ma vie est une question qui est existentielle à l'être humain. C'est l'être humain se pose cette question. Et je vais vous faire la liste, alors elle n'est pas exhaustive, mais je vais vous faire la liste de quelques systèmes philosophiques et religieux. Et selon eux, qu'est-ce que le sens de la vie? Donc, pour le platonisme, le sens de la vie est d'atteindre le monde des idées, la forme de la connaissance la plus pure qui soit. Pour la pensée aristotélicienne, je me suis entraîné, je suis même pas sûr d'être résumé, mais bref, la vie a pour objectif la recherche du bonheur suprême. Pour l'hédonisme épicurien, met en avant la recherche d'un plaisir tranquille, dénué de souffrance. Pour les stoïciens, ils veulent une vie en harmonie avec le logos, c'est-à-dire le principe de l'ordre de l'univers, par une maîtrise de soi dépassionnée. La pensée libérale met en avant la recherche de la liberté par le travail et la propriété. Pour le transhumanisme, ça serait carrément l'amélioration de l'espèce humaine par la technologie. On passe sur les religions. Pour l'islam, la vie est un test qui détermine l'éternité, suivant que l'on adore Allah en obéissant aux lois du Coran ou pas. Pour les hindous, les hindouistes, ils cherchent la suppression du soi intérieur afin de devenir un avec l'absolu cosmique et d'être délivrés du cycle des réincarnations. Pour les bouddhistes, il faut chercher l'illumination qui est la fin de la douleur et l'illusion de soi en une sorte de néant absolu. Pour la Bible, les chrétiens, le sens de la vie, c'est de croire en Jésus pour être réconcilié avec Dieu et de vivre une relation d'amour avec lui pour l'éternité. Et pour le nihilisme pur, c'est la négation d'un sens à la vie. Selon l'article, n'est pas compatible avec la vie elle-même parce qu'elle n'a que deux solutions, soit la folie ou la mort, car notre existence repose sur le sens qu'on lui donne. Donc les différents systèmes de pensée, religion, posent la question, essayent de répondre à cette question de c'est quoi le sens à la vie, c'est quoi le sens à ma vie. Et ce matin, on va regarder et on va plus creuser ce que la Bible nous dit du sens à la vie. Et pour creuser ce point-là, je vais parler de trois points ce matin. Je vais souligner trois points. Voici les trois points. Premièrement, on va parler du fait que nous sommes créés à l'image de Dieu, que nous sommes destinés à vivre une relation d'amour avec lui pour l'éternité. Et troisièmement, que Dieu est le seul à avoir le contrôle sur la vie. Donc, allons-y, vous êtes prêts? Ça va être bien. J'ai beaucoup de choses à dire. Donc, pardonnez-moi, hein, si je fais plus que 35 minutes, mais c'est le côté africain qui revient souvent. Non. Donc, premier point, créé à l'image de Dieu. Genèse 1, 26 à 28. Dieu crée l'homme à son image. Nous sommes l'image de Dieu. Et ça, c'est le point fondamental qui peut nous donner du sens à notre vie. Plus on arrivera à connaître Dieu, plus on aura une image de qui on est. Et pour expliciter mon propos, je vais vous donner un petit exercice. C'est « Dessine-moi un Sarval ». Est-ce que quelqu'un... Qui sait ici ce qu'est un Sarval ? Il faut lever la main simplement. Ouais. Moi, on m'a posé cette question quand j'étais une fois dans un des cours en théologie. On a dit dessinez-moi un Sarval. Je n'ai strictement aucune idée de ce que c'est qu'un Sarval. Donc, on m'a dit moi, un Sarval, c'est entre le cerf et le cheval, je sais pas. Sarval, je sais pas. J'ai de la créativité, donc je vais chercher. J'ai dessiné un Sarval. Alors, j'ai été dessinateur en bâtiment, d'où le côté très précis du dessin. N'est-ce pas, Jean-Pierre ? Merci. Donc, pour moi, un Sarval, c'est ça. Ça a été ça. Et du coup, pour moi, voilà, c'est un mi-cheval, mi-cerf. On ne voit pas bien les cornes du cerf. Mais ce n'est pas ça, un Sarval. Qu'est-ce qu'un Sarval ? Un Sarval, c'est ça. C'est beaucoup plus classe. En tout cas, la photo, elle donne bien. Un Sarval, c'est une sorte de félin. C'est un gros chat. Sauvage. Très beau. Et voilà, si vous ne saviez pas ce que c'était qu'un Sarval, maintenant vous voyez un Sarval, c'est très joli. Donc le Sarval, cet exercice, il nous montre quoi ? C'est que si on ne connaît pas si on ne connaît pas la source qu'on doit dessiner, on va forcément passer à côté de ce pour quoi on a été créé ou de l'image qu'on doit être. Plus on apprend à connaître Dieu, plus je peux devenir qui je suis. Puisque je suis créé à l'image de Dieu, plus j'apprends à reconnaître celui que je reflète, plus je sais ce que je reflète. Nous sommes créés à son image. Et du coup, plus j'apprends à reconnaître et à comprendre que le Sarval n'est pas un mi-cheval, mi-cerf, mais que c'est un félin, que c'est plus, il est descendant du lion, mais pas vraiment... qui vit en savane, qu'on peut quand même l'adopter, et que c'est quand même... Elle fait ça, hein, la bête. C'est pas du petit chat. Mais, et que ça ressemble à un chat, alors moi j'aime bien les chats, du coup, c'est sympa, un Sarval, plus j'ai de caractéristiques sur ce que c'est un Sarval, plus j'arriverai à faire un dessin, plus j'arriverai à reproduire sur mon papier vraiment ce qu'est le Sarval. Et c'est pareil avec nous et Dieu. Plus j'apprends à connaître Dieu... plus je deviens et je découvre qui je suis. Le psaume 139, verset 16, je pense que certainement ceux qui ont quelques années dans la foi le connaissent, mais qui dit « Lorsque j'étais encore qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient dessinés avant qu'un seul d'eux n'existe. » C'est pour comprendre que cette idée qu'on a été créé à l'image de Dieu, c'est que Dieu nous a désiré et voulu à son image, avant même que j'existe. Et du coup, je ne suis pas le fruit d'un hasard, je ne suis pas le fruit d'une créativité un peu bizarre entre un cheval et un cerf, mais je suis quelque chose de terminé, de fini, de voulu par Dieu. Et ça, c'est le premier point qui nous montre que ma vie fait sens. Parce que Dieu m'a créé dans une idée. Dieu n'est pas aujourd'hui, Dieu n'a pas terminé le projet Francesco. Aujourd'hui, il l'a terminé. C'est déjà terminé depuis, avant même que je sois créé, je suis né. Dieu a achevé le projet Francesco. Il connaît, il sait, il n'est pas surpris par qui je suis. Aujourd'hui, plus j'apprends à connaître Dieu, plus je me découvre moi. Je passe au deuxième point. Nous avons été destinés à vivre une relation d'amour avec lui pour l'éternité. 2 Corinthiens 5, les versets 17 à 21, nous parle de la réconciliation. Jésus vient sur terre pour nous réconcilier avec Dieu. Parce que jusque-là, la question de quel est le sens de ma vie, elle fait écho parce qu'un jour, ma vie s'arrête. Et du coup, aujourd'hui, lorsque Jésus vient et nous réconcilie avec Dieu, la question de la mort, la question de la fin de la vie change de perspective. Et lorsque Jésus vient, à partir de maintenant, on peut commencer à avoir une relation d'amour avec lui. Et en écrivant ce message, j'ai trouvé fou de dire que un jour, tout le monde est destiné à mourir. Donc un jour, je vais mourir. Et la seule chose que je vais emporter avec moi dans l'éternité, c'est la relation avec Dieu. C'est l'amour avec Dieu. C'est la seule chose qui perdure entre aujourd'hui et l'éternité, c'est cette relation avec Dieu. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que du coup, en fait, Dieu aujourd'hui m'aime de manière inconditionnelle et il va continuer à m'aimer de manière inconditionnelle jusqu'à la fin de l'éternité. Ouais, c'est long, la fin de l'éternité. Et donc, du coup, ça change la perspective. Ça change la perspective de ma vie. Je vais vous montrer. C'est la slide suivante. Notre vie continue dans l'éternité. Du coup, ceci est un sac Migros. Vous pouvez voir. Ne prêtez pas attention à cela. Ce n'est pas une bombe où je vais allumer la mèche, ne vous en faites pas non plus. Du coup, ce que je veux vous montrer, c'est que... Ça va la caméra? Super. On s'est briefé avec la caméra pour qu'il zoome, tout ça. Donc, du coup, voilà. Ça, la petite corde en noir représente ma vie sur Terre. Okay. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous espérez, combien d'années vous espérez vivre, mais ça représente le nombre d'années sur Terre, là où je vais vivre, travailler, avoir une famille, vivre ma vie. Et donc, lorsque je ne suis pas réconcilié avec Dieu, lorsque la question de la mort se vient, on ne sait pas ce qui se passe après. Il n'y a pas de perspective de futur, de suite. Alors que lorsque on est réconcilié avec Dieu par le sacrifice de Jésus, notre perspective change. Elle va changer, notre vision du monde, de notre vie change. Pourquoi? Parce que du coup, la caméra, je bouge. Du coup, Lison, est-ce que tu peux venir me tenir le sac? C'est un travail d'équipe, hein, c'est... Merci. Parce que du coup, ma vie ne s'arrête pas ici. Ma vie, elle continue après la mort. Elle continue. Et du coup, ma vision de ma vie, c'est pas seulement mon bout, le bout noir. Il y a un problème dans l'éternité. Non. Il y a un nœud. Ah, je sais pas qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, mais... Bref. Je continue. Ouais, mais ça va. On défait la vie. Ah là, là. Il se passe plein de choses pendant l'éternité, donc du coup, on ne sait pas vraiment, mais du coup... Je vais ressortir. Du coup, en fait, l'idée, c'est que ça reste à l'intérieur. C'était l'effet spécial. Voilà, merci, super. Et du coup, ma vision change, parce que du coup, ma vie ou ma vision de la vie ne s'arrête pas à ma vie sur Terre. Et vous voyez bien qu'entre ma vie sur Terre ou dans l'éternité, la vision change, parce qu'il y a des choses qui vont continuer et qui vont dans l'éternité. Et cette éternité se passe dans la relation avec Dieu, se passe dans une relation d'amour avec Dieu. Donc, ça change ma perspective du aujourd'hui. Ça change le but de ma vie. Ça change le focus de ma vie. Tout ça est changé. Pourquoi? Parce qu'il y a toute la corde, il y a toute l'éternité. Et du coup, ça change le focus de ma vie. Merci, Lison. Voilà. Donc, je continue et je... Ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux vivre ma vie en sachant que je serai dans une relation d'amour avec Dieu pour l'éternité, réconcilié avec lui. Et donc, la mort est vaincue et la mort n'est plus le problème ou le point final à ma vie. Le dernier point que j'aimerais aborder ce matin, je vais prendre plus de temps sur ce dernier point, c'est que Dieu est le seul à avoir le contrôle sur ma vie. J'aimerais terminer par ce point, parce que j'ai été frappé par un livre que j'aime beaucoup dans la Bible. Alors, toute la Bible nous parle de qui nous sommes en Christ, de qui est Dieu, de la réconciliation avec Dieu. La Bible nous montre, par les différentes histoires, que Dieu a le contrôle sur la vie. Mais dans les 66 livres de la Bible, il y a un livre qui se spécialise sur cette question du sens de la vie et sur le contrôle que Dieu peut avoir sur la vie. Parce que quelqu'un a une idée, soyons fous, et qui oserait essayer ce matin ? Esther, Job, Ecclésiaste, oui. C'est le livre de l'Ecclésiaste. C'est un des livres de sagesse. Dans la Bible, il y a trois livres de sagesse, le livre des Proverbes, le livre de l'Ecclésiaste et le livre de Job, qui sont des livres de sagesse. L'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste est un livre que je trouve assez fabuleux. Quand on le lit, on a vraiment l'impression d'être face à un texte assez moderne, puisqu'il est assez, de prime abord, assez pessimiste, comme ça, le monsieur qui écrit l'Ecclésiaste. Mais pas vraiment. Pour bien comprendre le livre de l'Ecclésiaste, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le livre, il y a deux personnages. Il y a deux personnes. Il y a l'auteur du livre, celui qui écrit l'Ecclésiaste, qui intervient à Ecclésiaste chapitre 1, verset 1, qui dit que voilà, il y a le deuxième, l'enseignant, le critique, qui va exprimer son savoir. Et il intervient à la fin du livre en faisant un résumé, chapitre 12, un résumé de ce qui est bon à retenir. Ça, c'est l'auteur. Et l'auteur va nous présenter l'enseignant, en hébreu c'est le Kohelet, qui veut dire le rassembleur, le prédicateur, l'enseignant. J'ai mis en parenthèse le critique, parce que en fait, l'enseignant va prendre une position sur la vie, où en fait il a un objectif très précis. Il a un objectif très précis, l'enseignant, c'est de nous montrer, et il va utiliser un mot en fait, c'est de nous montrer comment est la vie. Comment est la vie sans Dieu et comment est la vie avec Dieu. Et il va utiliser un mot, il y a 12 chapitres, il va utiliser un mot pratiquement 40 fois, 38 fois, il y a un mot qui revient sans cesse. C'est le mot en hébreu, Hevel. Et donc il dit la vie est Hevel. Et il va, et c'est vraiment tout au long du bouquin, tout au long de l'Ecclésiaste, il va sans cesse répéter la vie est Hevel. Nos traductions, aujourd'hui, ont remplacé Hevel, le mot hébreu, par vanité, ou par la vie n'a pas de sens, la vie est vanité. Ce qui n'est pas rendre justice au mot Hevel ou au concept hébraïque qui est derrière le mot Hevel. Parce que si on comprend que la vie est vanité et qu'on met dans la bouche de l'enseignant de l'Ecclésiaste que toute la vie est vanité, qu'elle ne vaut rien, que de toute façon tout est déjà créé sous le soleil, que ça ne sert à rien, c'est fini, laissez tomber, c'est pas représenter ce qu'il essaye de nous faire dire, de ce qu'il essaye de nous communiquer. Hevel, qu'est-ce que Hevel veut dire concrètement ? C'est un concept hébreu, et concrètement Hevel veut dire vapeur, fumée, quelque chose comme la vapeur, de la fumée, du brouillard, quelque chose qui est insaisissable et finalement énigmatique, éphémère. C'est là, c'est bien présent, on dirait qu'on peut l'avoir, qu'on va l'apprendre, mais que quand on tend la main, ça nous échappe. Et il nous dit que la vie est Hevel. La vie est insaisissable, la vie est énigmatique. Et il va venir nous chercher sur trois grands points, il nous remet un petit peu en question. Il est très percutant, il va venir nous heurter dans notre vision du monde et de ce qu'on va faire. Parce que pour lui, tout est vapeur et fumée, et il va prendre trois points. Il va nous parler de la notion du temps, qu'on n'a aucune prise sur le temps, qu'elle est insaisissable, que le temps passe. Ça, c'est les premiers chapitres. C'est très, très gai, hein. Il va dire que voilà, une génération passe, on se fait oublier, une nouvelle arrive, tout recommence encore. Tout est Hevel, tout est vapeur, c'est insaisissable. Que l'on veuille ou pas, la notion du temps, on ne peut pas la prendre, on ne peut pas la saisir. La deuxième notion où il va venir nous chercher, c'est la mort. Et il va dire qu'on soit riche, pauvre, sage, idiot, on va tous mourir. J'espère que vous passez un bon moment avec moi ce matin. En tout cas, moi, je passe un super moment. On va tous mourir. Et que cette condition-là nous met tous au même niveau. Elle nous met tous au même niveau. C'est-à-dire que, voilà, peu importe qui on est, peu importe ce qu'on a fait, il y a cette norme-là qui va venir et on meurt. Et la troisième, le troisième point où il vient changer la perspective, il vient nous parler du caractère aléatoire de la vie. Comparé au proverbe, où c'est, on pourrait dire, une jeune femme qui nous explique la sagesse de Dieu. Là, c'est un vieux monsieur cynique, non, mais quelqu'un de plus mûr qui prend du recul. Les proverbes vont nous dire qu'il y a une cause de... une causalité entre ce qu'on fait et ce qu'on reçoit. Il y a voilà, le sage qui est juste et récompensé, il y a quelque chose entre les deux. Lui, dans l'Ecclésiaste, va nous dire « c'est pas toujours les sages qui sont gagnants. Des fois, c'est les méchants qui vivent longtemps. » Il y a quelque chose d'aléatoire. Il y a quelque chose de evil, quelque chose d'insaisissable, d'énigmatique, qu'il n'arrive pas à comprendre. Pourquoi il nous dit tout ça? Pourquoi il vient nous heurter dans tout ça? Parce que il souhaite qu'on se recentre sur la seule chose qui n'est pas insaisissable, qui n'est pas énigmatique, qui n'est pas une vapeur qui va s'envoler. Il veut qu'on recentre nos vies sur la seule chose qui va durer, la seule chose qui est tangible, selon lui, selon nous, c'est Dieu. Dieu qui reste ici, immuable, qui ne change pas, qui n'est pas une vapeur, une fumée qui est insaisissable ou lorsqu'on s'approche, ça disparaît. C'est Dieu. Il veut qu'on se ressente sur Dieu. Parce que du coup, ce qu'il va dire, c'est que tout est evil, tout est vapeur, insaisissable, mais que Dieu fait des dons, que Dieu donne, et qu'il faut profiter. Il va le dire, mais si on a la chance d'avoir des richesses, il faut profiter du don que Dieu donne. Si on a la chance d'avoir du plaisir, il faut profiter de ça. Si on a la chance d'avoir une carrière, il faut profiter de ça. Il va dire, Dieu fait des dons dans la vie, mais faites attention que ces dons ne deviennent pas la raison de votre vie. Parce que ces choses-là sont evil, sont insaisissables, sont éphémères. Que ce soit la richesse, le statut social, la bonne santé, la carrière, le plaisir, la famille, les amis, tout ça, c'est des choses qu'il va nommer, où il va dire que l'œil n'en a jamais assez. Il en veut toujours plus, et finalement, il n'arrive jamais à être satisfait de tout cela. Et que c'est evil, que c'est une vapeur, une fumée, une course après le vent. Et puisqu'on est incapable de maîtriser ces choses-là de notre vie, il nous invite à faire confiance à Dieu. Il nous invite, et je vais reprendre un texte que j'ai entendu d'une vidéo de Bible Project. C'est des petites vidéos faites sur YouTube qui résument des livres de la Bible, ou justement qui vont chercher certains sens bibliques, qui le remettent au goût du jour, que je trouve très pertinentes. Et dans cette vidéo, il conclut une vidéo sur le mot « evil » en disant « Puisqu'on est incapable de maîtriser sa vie, il faut arrêter de le faire. Cherchez plutôt à prendre les choses comme elles viennent. Parce que la seule chose où nous avons vraiment le contrôle, c'est notre attitude dans l'instant présent. Cessez de s'inquiéter et choisir de profiter d'une bonne conversation avec un ami, du soleil sur le visage, d'un repas avec la famille, finalement de profiter des choses simples que la vie, que Dieu nous donne. Parce que toutes ces petites choses que Dieu nous donne sont des riches présents. Et que finalement, Dieu est le seul à avoir un contrôle sur la vie. En conclusion, je dirais cette phrase-là, que j'ai été créé à l'image de Dieu pour vivre une relation d'amour avec lui dans une vie où je n'ai pas de contrôle sur les circonstances de ma vie. Et Pour moi, ce dernier point, il était important puisque on parle du sens de la vie et souvent on parle de voilà, je suis fait à l'image de Dieu, et je suis dans l'éternité. Et quelque part, on a décollé du sol, on est à 30 cm du sol, on est en train de voler, plus rien ne va nous arriver. Il est incroyable, mais la Bible ne nous parle pas de ça. La Bible nous parle de cette vie qui est incontrôlable, qui n'est pas sous notre contrôle, mais sous le contrôle de Dieu. Et que des fois, il y a des choses qui sont insaisissables, qui sont « heaven ». Mais que dans toute cette vapeur, il y a une chose qui reste solide sur un roc sur lequel on peut s'appuyer, et c'est Dieu. Je vais simplement terminer par prier. Père, je veux te remercier déjà parce que aujourd'hui, je veux confesser que effectivement, nous sommes des créatures merveilleuses parce que tu nous as créés. Tu nous as créés tels que nous sommes et je te remercie pour la création, pour qui nous sommes, parce que tu nous as créés et que nous sommes à ton image. Père, je me réjouis et je suis vraiment dans la joie de savoir que ma relation avec toi d'amour est inconditionnelle et que c'est cette chose, cette relation continuera tous les jours jusqu'à la fin de ma vie et dans l'éternité. Merci Seigneur de cet amour qui m'environne, merci de cette relation que je peux avoir avec toi et qui change le sens de ma vie, qui change les perspectives de ma vie. Père, ce matin, je veux simplement te remettre encore le contrôle de la vie, c'est-à-dire que oui Seigneur, je veux essayer d'arrêter, de lâcher prise Seigneur sur ces événements qu'on ne contrôle pas, qu'on ne connaît pas, qu'on n'arrive pas à saisir, et simplement être avec toi et profiter de ce que tu nous donnes de vivre aujourd'hui. Amen.